Alors, si je calcule bien, il ne nous reste plus que 3 séances. Nous ne nous retrouverons que le 4 avril. Et ensuite, si je calcule bien, le 11 avril. Et ce sera la dernière séance. Alors, je ne sais pas comment nous allons boucler. On verra bien. Je voudrais donc ce soir que nous passions la première heure à terminer ce chapitre. Je voudrais tout de même dire un mot sur le rapport entre démocratie et vérité. La critique qui est souvent en faite d'un point de vue philosophique et théologique concernant le relativisme dont la démocratie serait porteuse. Puis nous prendrons un temps de discussion, si vous le souhaitez, sur cet ensemble. Et nous aborderons ce que j'appelais le dernier chapitre, dont je voudrais donner le plan autour du problème plus spécifique de l'éthique ou de la morale en politique. Alors, nous avions donc essayé de réfléchir sur ce thème de la démocratie. Je crois qu'on peut prendre comme fond de tableau la définition de Lincoln, le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, en reconnaissant le côté utopique, idéaliste de toute démocratie, puisque le peuple ne se gouverne jamais lui-même en tant que tel, puisqu'également on peut s'interroger indéfiniment sur cette notion de peuple, ce que nous n'avons pas tellement fait ici, mais qu'on pourrait évidemment faire. Et donc ce que nous avions admis, c'est qu'il n'y a de démocratie que représentative, il ne peut pas y avoir de démocratie directe. Il faut donc en passer par des représentants qui présentent le peuple, qui le représentent, mais comme toute représentation, nous le savons bien en philosophie, celle-ci peut trahir ce qu'elle représente, c'est-à-dire peut se solidifier, se durcir, se substituer à ce qu'elle représente. C'est le problème de tous les médiateurs. Du coup, également, les systèmes démocratiques essaient de mettre en place, dans la grande ligne de leur option de fond, une régulation, un contrôle des pouvoirs. Et nous avions rencontré Montesquieu avec l'idée d'équilibrer le pouvoir par le pouvoir, de faire en sorte que les pouvoirs s'annulent eux-mêmes, car la grande crainte des démocraties, c'est bien évidemment l'arbitraire, l'absolutisme, les excès de pouvoir. Bon, donc, une tentative par d'équilibre des chambres, des instances politiques, une tentative d'équilibrer ce pouvoir. Alors, nous avions également rapidement vu aussi qu'il y a forcément des principes de corruption de la démocratie, que la démocratie, oui, j'ai oublié de le dire avant, c'est une aristocratie finalement, c'est-à-dire c'est le choix final, on essaie de choisir les meilleurs, en principe, le peuple n'élit pas les plus médiocres et les moins talentueux. Du moins, là, nouveau, c'est un principe. Et le rôle des partis politiques serait, en principe, aussi de préparer les hommes et les femmes qui seraient capables d'être les meilleurs dans la direction politique. Voilà. Alors, nous avions vu aussi rapidement quelques problèmes de corruption. J'avais signalé surtout 2 problèmes, c'est-à-dire la difficulté de savoir qui fait quoi. Et j'avais signalé que, justement, une des grandes idées de Montesquieu, et je crois de la démocratie, c'est de savoir qui décide. Il n'y a rien de pire que l'obscurité, les ténèbres, le brouillard, les décisions qui sont prises par on ne sait qui et qui vous tombent dessus. Donc, une des idéaux de la démocratie, qu'elle n'atteint pas toujours, évidemment, c'est de savoir qui fait quoi, dans quelle mesure, dans la limite de ses fonctions, etc. Et puis l'autre difficulté que j'avais soulignée, qui est évidemment liée à la complexité de nos sociétés modernes, c'est non seulement la clarté de la décision elle-même, de qui vient-elle, mais c'est le problème ce que les sociologues appellent, d'un terme pas toujours très heureux, les effets pervers, les effets collatéraux, disons. Des effets qui n'ont pas été voulus, on a cru prendre à un moment donné une bonne décision, et en réalité, les effets apparaissent au bout de quelques années contradictoires par rapport à cette bonne décision, telle sorte qu'on a décidé du mal plutôt que du bien. On pourrait donner bien des exemples, j'en ai donné quelques-uns l'autre jour. Bon, on le voit particulièrement dans le problème des médicaments, de l'alimentation, on le voit avec le sang contaminé, l'arrivée des travailleurs immigrés qui répondaient à des demandes pressantes de l'industrie et qui aboutit en fait à une transformation profonde du paysage religieux de l'Europe. Bon, je voudrais, avant que nous passions à une discussion, quand même dire quelques mots encore sur le rapport entre la démocratie et la vérité, c'est-à-dire aborder cette question si l'on peut dire, démocratie, vérité, raison. Alors, il y a plusieurs approches possibles de cette immense question, à laquelle je ne prétends pas d'ailleurs donner le dernier mot. Mais on pourrait dire d'abord que si la démocratie repose sur l'idée de souveraineté populaire, si difficile soit-il de la cerner, c'est-à-dire sur le pouvoir du peuple, on peut évidemment se demander s'il est bien légitime de faire confiance au peuple. Déjà qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que le peuple, est-ce qu'on peut faire confiance au peuple, c'est-à-dire à la multitude, à la masse, aux populations rassemblées dans une nation? Quelles que soient donc les modalités institutionnelles, l'équilibre des pouvoirs, rôle des partis politiques, etc., que l'on mette en place, est-ce que l'on a bien raison de se confier au peuple? Et revient régulièrement l'idée selon laquelle, après tout, le gouvernement d'un seul serait peut-être au total plus efficace, plus sûr, plus rapide, moins capricieux, parce que le peuple, évidemment, on sait très bien qu'il fluctue, il adore un jour ce qu'il va brûler le lendemain et inversement. Bon, est-ce que la masse ne risque pas d'être soumise à toute espèce de pression, de caprice? Et donc, est-ce qu'on peut faire confiance à travers la masse à une opinion changeante? On pourrait dire que cette objection, qui peut trouver des formes évidemment diverses, elle est entretenue par divers théoriciens de certaines formes d'absolutisme, où l'idée selon laquelle si la démocratie c'est bien la discussion, ben, la discussion finit par s'embourber et il vaudrait mieux finalement faire court avec quelqu'un qui décide. Voilà, c'est très beau de dire discussion, débat démocratique, on fait apparaître les idées, on fait émerger les intérêts des groupes, etc. C'est bien. Enfin, il y a quelquefois des urgences qui font que la discussion paraît stérile, stérilisante et empêche les responsables finalement de prendre des décisions. On s'aperçoit que c'est tellement compliqué qu'on ne prend pas des décisions. Donc, un certain nombre de gens vont dire, bon, sans doute un peu de discussion, mais il faut avoir un pouvoir fort qui, finalement, décide sans tellement se livrer aux aléas de l'opinion publique. On pourrait dire que par certains côtés, la Ve République a représenté, au moins dans son idéal type, cette sorte de, voilà, pas d'absolutisme, enfin, d'un pouvoir fort, qui évidemment n'est pas un pouvoir dictatorial, comme les présidents de la République, de la Ve République n'ont été, je crois, des dictateurs, mais avec l'idée qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui commande. Bon, il y a des parlements, j'écoute un peu, pas trop, mais il y a quelqu'un qui décide. Alors, j'ai déjà signalé, je reviens là-dessus, que par le biais de l'écologie, curieusement, on retrouve un crédit à cette thèse, parce qu'on va dire, par exemple déjà Hans Jonas, dans son grand livre sur le principe responsabilité, mais des auteurs contemporains comme Dominique Bourg, P-O-U-R-G, disent, étant donné la complexité des problèmes de l'environnement, et étant donné la rigueur qu'il faudrait avoir pour prendre des décisions musclées, aucune démocratie ne sera à la hauteur de ces décisions. Si vous demandez aux gens qu'ils arrêtent de conduire leur voiture, qu'ils la vendent, qu'ils utilisent moins d'électricité, etc., vous parlez en l'air. Donc il faut qu'il y ait un pouvoir qui un beau jour décide. Voilà. Donc on voit renouveler cette idée qu'au fond il faudra s'en remettre à quelques-uns des experts qui eux savent. Alors je crois que cette objection, cette interrogation sur quelle confiance faire au peuple et dans quelles limites, elle trouve une expression encore plus forte quand on se demande, quand on s'interroge sur les rapports entre la démocratie et la vérité. Au fond, la question est de savoir si la démocratie ne fait pas congé, ne donne pas son congé à l'idée de vérité. Par exemple, quand on dit, comme nous l'avons dit à la suite de Claude Lefort, que le pouvoir en démocratie s'identifie à un lieu vide, on laisse entendre que ce pouvoir n'a pas de boussole à proprement parler, qu'il est ouvert, pour parler comme saint Paul, à tout vent de doctrine. Il accueille toutes les revendications de la société et ça fait partie même de la vie démocratique. Il doit laisser s'exprimer l'expression multiforme des aspirations populaires, des aspirations des divers groupes. Et par conséquent, on peut dire, le pouvoir politique ne sait pas et ne doit pas savoir quel est le bien de la société. Il doit accepter de l'entendre de la part des revendications sociales. Il doit recevoir ce qui est à faire de la part de la société. De telle sorte qu'on pourrait dire que le pouvoir politique en démocratie est agnostique. Il ne sait pas plus que vous et moi, et même certainement moins que le peuple, quel est le bien du peuple. Quel est le bien du peuple? Du coup, cette espèce d'incertitude sur les fins ou sur le bien commun aboutit à l'interrogation de savoir si, au fond, on ne marche pas à l'aveuglette, c'est-à-dire en suivant les courants d'opinion publique, et donc se mettre du côté du relativisme. On va décider du côté de ceux qui parlent les plus forts, du côté de ceux qui paraissent imposer davantage, etc. Alors, je dirais que cette objection, elle prend plusieurs formes. Il y en a une fort ancienne, qui est celle de Platon, qui n'est pas, comme vous savez, particulièrement démocrate. Dans son livre sur la politique, au verset ou vers, aux lignes 298 B et D, Platon fait l'objection suivante, je crois déjà l'avoir signalée. Lorsque nous prenons un bateau, est-ce que nous demandons aux passagers de prendre, j'allais dire le volant, de prendre le gouvernail? On se confie au capitaine du bateau, parce qu'il connaît la mer, il connaît les courants, il connaît les vents, il connaît les difficultés à rencontrer, par où il faut passer, qu'il faut faire des détours, contourner une île, et les passagers se fient au savoir du capitaine. Et si on se mettait à dire, ah mais non, le capitaine ne sait pas, c'est les passagers qui vont discuter, n'est-ce pas? Bon, on sortira sans doute pas du port, et ensuite on risque d'aboutir à la catastrophe. Donc, dit Platon, vous comprenez, quand il s'agit d'aller d'une île à l'autre, n'oublions pas que c'est un grec, on se confie au capitaine, alors à combien plus forte raison quand il s'agit du bateau de la cité? Donc, il faut se confier, ceux qui savent, ce qu'il appelle, lui, les philosophes, il ne faut pas s'en remettre au peuple, ce serait déraisonnable, parce que le peuple n'est pas compétent dans des domaines gravissimes. Voilà. Ça, c'est une objection très ancienne et qui on voit renaître sans arrêt. Saint-Simon, le saint-simonisme, c'était un peu aussi cette idée qu'il faut se confier à ceux qui savent, c'est-à-dire les experts, c'est-à-dire les scientifiques, et on retrouve cette idée chez un certain nombre d'écologistes aujourd'hui. Ni vous ni moi ne savons exactement ce qui se passe au pôle Nord et au pôle Sud, pour la fonte des glaciers, etc. Nous ne connaissons pas l'épuisement des ressources rares, mais il y en a qui le savent, donc c'est eux qui vont nous dire, voilà, mesdames, messieurs, voilà ce qu'on fait à partir de maintenant. Terminé, il n'y a pas la peine de discuter, c'est clair et net. Donc la démocratie ne... Voilà. Alors l'autre objection très contemporaine qu'on trouverait chez Jean-Paul II, c'est l'idée que la démocratie devrait se laisser conduire par la vérité. Elle doit se laisser mesurer par la vérité, car sans cette référence à la vérité, elle risque de se laisser subjuguer par l'opinion changeante, par la tyrannie des majorités, par le relativisme flatteur pour les passions et destructeur du sens de l'homme. Alors, je vous renvoie à une encyclique, il y en a plusieurs, mais enfin, une qui est plus caractéristique de cela, c'est Evangelium Vitae, comme on dit aujourd'hui, Evangelium Vitae, qui est absolument horrible, mais enfin bon. Au paragraphe 19 et 20, c'est une encyclique de 1995. Alors, vous verrez, il faut lire ces textes, ils sont très très forts, très cohérents, où le pape explique que, en effet, la démocratie est toujours tentée de se laisser dominer par les passions des citoyens et de ne pas pouvoir prendre de décision. Alors, la conséquence de ceci, je lis deux petites phrases tout à fait caractéristiques. La démocratie, en dépit de ses principes, s'achemine vers un totalitarisme caractérisé. Donc, nos démocraties vont, c'est pas une thèse qui est propre d'ailleurs au pape, hein, pour citer des auteurs qui vont dans ce sens-là, qui n'ont rien à voir avec le catholicisme ou les croyances chrétiennes. Je relis, la démocratie, en dépit de ses principes que nous avons énoncés, s'achemine vers un totalitarisme caractérisé. Donc nous glissons vers le totalitarisme. Ou encore, nous ne sommes plus qu'en face d'une tragique apparence de l'égalité. De l'égalité, pas L apostrophe, de l'égalité. La loi est une apparence de loi. La loi n'est plus la loi. Et d'ailleurs, dans un certain nombre de textes, Jean-Paul II va jusqu'à demander aux citoyens chrétiens ou aux citoyens tout court de désobéir à cette loi. Alors évidemment, quand on regarde le texte de près, on s'aperçoit que la préoccupation du pape concerne les questions d'interruption de grossesse et la facilité que les démocraties ont eue de légaliser dans ce domaine, les problèmes d'euthanasie. Mais je crois que, si on peut comprendre l'inquiétude du pape sur ces problèmes, il s'en prend au principe même de la démocratie. Quels que soient les principes de la démocratie, elle s'affaisse dans le totalitarisme. Donc, il s'agit bien, en effet, de la contestation du principe même de la démocratie qui serait, en quelque sorte, pourrie par une sorte de relativisme immanent qui en dégrade les principes. Donc, il me semble que le diagnostic de Jean-Paul II va bien au-delà de l'inquiétude pour un problème particulier, disons, bon, l'interruption de grossesse, les problèmes d'euthanasie ou de suicide assisté, mais s'en prend précisément à une certaine façon de comprendre l'être ensemble qui est liée à la démocratie. Bon, vous lisez ces textes, vous verrez, j'espère que je ne les caricature pas, c'est d'ailleurs un thème très fréquent, qui est très fréquent chez Jean-Paul II, moins repris peut-être par Benoît XVI. Alors, je voudrais livrer quelques réflexions sur cette objection que la démocratie, finalement, trahirait la vérité. Je vous ai donné un texte d'Éric Weil, je ne vais pas y revenir, vous verrez, il est contestable par certains côtés, mais intéressant par beaucoup d'autres. Alors, évidemment, c'est une très vaste question sur laquelle je ferai simplement trois remarques que je livre à votre réflexion. D'abord, on nous dit, évidemment, je pense ici particulièrement à Jean-Paul II plutôt qu'à Platon, on nous dit un système qui n'est pas fondé sur la vérité, c'est-à-dire la vérité de l'homme, ne peut que se dégrader. Un véritable système politique doit être fondé sur la vérité. Alors on peut déjà se demander où l'on a vu un tel système exister et se baser sur la vérité. Est-il sûr qu'un système qui serait basé sur la vérité, à condition, je vais y revenir dans un instant, de savoir ce que c'est que la vérité, est-ce qu'il est sûr qu'un système fondé sur la vérité, pour Jean-Paul II c'est la vérité de l'homme, et il y a une vérité de l'homme, serait viable, sain, pacifique, assurant la justice aux gens? On peut plutôt se demander si un système politique commandé par la vérité ne serait pas justement un système totalitaire et dictatorial. On a connu ça, et Jean-Paul II l'a quand même connu, avec les systèmes communistes qui prétendaient se fonder sur un matérialisme historique scientifique. Si on a affaire au matérialisme scientifique, évidemment, cette vérité s'impose. Il y a ceux qui savent quel est le sens de l'histoire, par où ils passent et qui mettront en œuvre les moyens de réaliser ce sens de l'histoire. Alors, voilà la question. Est-ce que ce qui est critiqué dans la démocratie n'est pas en réalité une nostalgie d'un système finalement absolutiste ou totalitaire? Et on peut se demander si cette affirmation que tout régime politique doit être fondé sur la vérité n'est pas caractéristique d'un habitus, comme dirait l'autre, enfin, d'une tendance antidémocratique. Parce que s'il s'agit de la vérité, même la vérité de l'homme, supposé qu'il y en ait une, évidemment, par rapport à cette vérité, il n'y a pas de débat possible. On le voit bien dans le cas des totalitarismes. Où vous reconnaissez cette vérité? On vous explique et vous vous pliez à cette vérité, donc vous y adhérez. Ou bien on va vous expliquer. On va prendre le temps de vous expliquer pour que vous en veniez à cette vérité. Ou bien vous allez résister et on va vous dire, mais cher ami, vous résistez à la vérité, vous êtes quelque chose qui tourne pas rond. Et on n'est pas loin de l'hôpital psychiatrique. Je n'invente rien, c'est quand même ce qui s'est passé. On vous explique et vous finissez par comprendre, et vous vous ralliez à la doctrine du parti. Ou bien vous faites des objections jusqu'au bout, et on vous dit, écoutez, c'est quand même malheureux, vous n'arrivez pas à voir la vérité, qu'elle est pourtant là, la vérité, on vous la donne, on vous la dit, on vous la démontre. Vous résistez. Vous êtes déraisonnable. Alors on peut vous soigner. Alors, je dirais précisément que la démocratie, on en veut, on n'en veut pas, hein, on peut dire que c'est mieux d'avoir un système de vérité. Les systèmes démocratiques, ils naissent précisément du refus de cette prétention à la vérité, d'être conduit par la vérité. Alors, ou on veut ça, ou on ne le veut pas. Mais si on accepte la démocratie, on accepte aussi qu'elle ne se conduise pas sur la vérité. En tout cas, sur une conception dogmatique de la vérité. Voilà, ça fait partie de la démocratie. Alors, ou on ne la veut pas, ou on la veut. Si on la veut, on accepte en effet qu'il n'y ait pas une vérité qui conduise à la démocratie. C'est le problème du pluralisme idéologique qui conduit les démocraties et qui est lié à l'instance même de la démocratie. Il n'y a pas ni un groupe social, ni un expert, ni un magistère qui sache quelle est la vérité à partir de laquelle on pourrait mener la vie politique. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque concernerait évidemment la question de la vérité. Qu'entend-on par vérité ? Alors, Jean-Paul II, dans son texte, dans ses textes, je crois laisse entendre, ce qu'il dit toujours, c'est la vérité de l'homme. Mais là encore, y a-t-il une vérité de l'homme, même à l'intérieur de la tradition chrétienne ou la révélation chrétienne, y a-t-il une anthropologie à partir de laquelle on pourrait déduire une conduite ? Deux problèmes, y a-t-il une anthropologie ? Et deux, peut-on déduire une pratique de cette anthropologie ? Alors, sur le premier point, évidemment, Jean-Paul II a une anthropologie qui est la sienne. Et il pense que c'est l'anthropologie catholique. Ce n'est pas tellement sûr. Y a-t-il une anthropologie catholique ? Il y a en effet des approches chrétiennes de l'homme. Est-ce que ça fait un système ? Je crois qu'en dehors de Jean-Paul II, il y a peu de gens qui en sont convaincus. Mais d'autre part, est-ce que la vie politique consisterait à déduire des décisions concrètes à partir d'une théorie ou d'une anthropologie ou d'une vérité ? Alors ça pose le problème de savoir s'il faut se référer à cette notion de vérité dans le domaine pratique, et la politique relève du pratique, il faut prendre des décisions concernant une nation, un pays, etc., une ville. Bon, est-ce que ce concept de vérité est adéquat à ce domaine pratique et à ce domaine politique ? Là, en morale, comment ? Je crois que cette référence n'est pas sans danger, et que déjà, Aristote, critiquant son maître Platon, l'avait bien vu. C'est-à-dire qu'au début d'Éthique et Nicomaque, et ailleurs d'ailleurs, Aristote dit clairement que dans le domaine de la pratique, c'est-à-dire de la décision, de la vie morale, de la vie politique, ce n'est pas la vérité qui nous conduit. Parce qu'on ne peut pas agir de manière déductive, puisqu'il faut toujours épouser une circonstance donnée, une situation concrète. C'est le bien, c'est ce qu'il faut faire quand il le fait, quand il le faut. Faire ce qu'il faut quand il le faut. Voilà la décision politique pour Aristote. Et je crois qu'il a raison. Ça veut donc dire que la décision doit se laisser informer par mille choses, mais pas à partir d'une déduction. Et il me semble que là-dessus, il a parfaitement raison. Alors, donc, je crois qu'il faut plutôt parler, dans ce domaine, en étant d'ailleurs fidèle à Aristote, de bien. Il faut chercher, et c'est la tâche de le responsable politique, à bien résoudre un problème qui se pose en fonction du bien de ce groupe, de cette ville, de cette cité, de ce continent. Il faut chercher à résoudre ce bien-ci. Et évidemment, pour chercher à résoudre ce bien-ci, il faut s'appuyer sur un certain nombre de références qui sont par exemple des valeurs, qui sont des normes, qui sont des principes, qui sont un certain sens du respect de l'homme, de sa dignité, de ses attentes de paix, de sécurité, de justice. On pourrait dire encore, si vous voulez, dans nos sociétés démocratiques modernes, la référence aux droits de l'homme. Et on ne peut pas se passer de ces références communes. Simplement, ces références communes, elles restent, pour parler comme Eric Weil, des références formelles, qui sont d'une certaine façon vides. Vides ne veut pas dire qu'elles sont inconsistantes, mais qu'elles sont des idéaux à remplir. Qu'est-ce que c'est que respecter la dignité d'un malade? Ben, nous savons que ce malade, il a une dignité, que nous devons la respecter, mais par où ça passe? Selon que ce malade est âgé, jeune, seul ou accompagné d'autres personnes, etc., dans une situation critique ou en état d'amélioration, les gestes ne vont pas être les mêmes. Il n'y a pas une vérité du malade. Voilà, donc la décision morale doit dépendre de ces circonstances et évidemment de valeurs, de normes, de principes qui seront, entre autres, ce que je viens de dire, les droits de l'homme, la dignité, pour dire liberté, égalité, fraternité. Donc on n'est pas devant le vide. Ce n'est pas du relativisme, c'est ce qui va permettre la discussion. Par où passe la dignité du malade, la dignité du mourant? Par où passe la dignité des élèves dans une école de banlieue? Par où ça passe? Alors, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut bien dire que les démocraties, elles ont des références communes. Elles ne peuvent pas ne pas avoir des références communes qui viennent de leurs héritages culturels, de leurs traditions, qui viennent de leur histoire, qui viennent des diverses religions qui ont travaillé les mentalités sur des siècles et qui constituent comme une espèce de réservoir, de normes, de valeurs grâce auxquelles une société se conduit. Je dis ça parce que on reproduit sans cesse le concept d'autonomie. Encore ce matin, dans le Figaro, M. Luc Ferry nous bassine avec ce poncif, ce suprême poncif, que la religion, c'est l'hétéronomie, et la démocratie, c'est l'autonomie, l'homme qui se fait comme ça à partir de lui-même. Il n'y a rien de si stupide des deux côtés. Je vais lire simplement un texte magnifique de Tocqueville. Dans « La démocratie en Amérique », c'est le deuxième volume, première partie, chapitre 2. Alors, c'est un texte qui demanderait à être étudié de près, mais je crois qu'il est quand même très, très intéressant. Voilà un homme qui est quand même tout à fait favorable à la démocratie. Il écrit ceci. « Il est facile de voir qu'il n'y a pas de société qui puisse prospérer sans croyances semblables. Ou plutôt, il n'y en a point qui subsiste ainsi, car sans idée commune, il n'y a pas d'action commune. Et sans action commune, il existe encore des hommes, mais non un corps social. Pour qu'il y ait société, et à plus forte raison pour que cette société prospère, il faut donc que tous les esprits des citoyens soient toujours rassemblés et tenus ensemble par quelques idées principales. Cela ne saurait être, à moins que chacun d'eux ne vienne quelquefois puiser ses opinions à une même source et ne consente à recevoir un certain nombre de croyances toutes faites. Alors évidemment, ça heurte le sentiment démocratique qui est le nôtre, entre nous sommes absolument uniques, n'est-ce pas? Tout commence avec nous, mais c'est pas vrai. Nous sommes dans une tradition de droit de l'homme, de respect de la personne, de respect de la propriété, que nous avons reçue et que nous ne nous sommes pas donnés. Alors, le texte est peut-être un peu fort, s'il donne à entendre qu'il y a des croyances qui s'imposent aux gens, mais quand nous parlons de liberté, d'égalité, de fraternité, c'est pas nous qui l'avons inventée. La Révolution française, c'est ni vous ni moi qui l'avons faite. Les Lumières, c'est pas nous qui l'avons faite. Le Moyen-Âge, etc. Bon, Platon, dont je viens de parler, nous le recevons. Nous le recevons de manière critique, mais nous le recevons de la société comme une sorte de fond commun. Il n'y a pas, ajoute Tocqueville, de si grands philosophes dans le monde qui ne croient un million de choses sur la foi d'autrui et qui ne supposent beaucoup plus de vérité qu'ils n'en établissent. Évidemment, ça grincerait des dents. Ceci est non seulement nécessaire, mais désirable. Un homme qui entreprendrait d'examiner tout par lui-même, la fameuse autonomie, ne pourrait accorder que peu de temps et d'attention à chaque chose. Ce travail tiendrait son esprit dans une agitation perpétuelle qui l'empêcherait de pénétrer profondément dans aucune vérité, de se fixer avec solidité dans aucune certitude. Son intelligence serait tout à la fois indépendante et débile. Il faut donc que parmi les divers objets des opinions humaines, il fasse un choix et qu'il adopte beaucoup de croyances sans les discuter afin d'en mieux approfondir un petit nombre dont il sait réserver l'examen. Donc Deauville ne dit pas « gobez tout, les yeux fermés ». Mais nous avons reçu une masse de choses, parmi lesquelles nous faisons quelques critiques. Il est vrai que tout homme qui reçoit une opinion sur la parole d'autrui met son esprit en esclavage, mais c'est une servitude salutaire qui permet de faire un bon usage de la liberté. Et de conclure qu'il n'y a pas de démocratie sans des autorités. Bon, je laisse de côté notre ami Tocqueville, mais vous voyez que Tocqueville ne dit pas « bon, on fait n'importe quoi à partir de rien ». Non, la discussion elle-même s'organise sur un arrière-fond, sur un horizon de vérité, de bien, de normes, de principes reçus. Et ça, c'est évidemment, je crois, tout à fait capital. Et qui montre que, même si on ne s'adosse pas sur une vérité de l'homme, nos démocraties ne sont pas dans un relativisme complet où n'importe qui parle à partir de n'importe quoi. Enfin, quand on discute sur le mariage, ben on discute sur un horizon, d'un mariage monogamique. Alors qu'on peut discuter, etc., mais nous l'avons reçu. Pas nous qui l'avons inventé. Alors on peut dire il faut le changer, etc. Mais on parle de ça en fonction de cet horizon, d'une tradition religieuse, philosophique, d'une certaine conception de la femme, et ainsi de suite. Bon, on pourrait dire, on laisse tomber tout ça, et un homme peut avoir plusieurs femmes, une femme plusieurs hommes. Bon, d'accord, mais on parlera en fonction du monogamisme qui nous a quand même habité. Bon, donc pas à partir de rien. Ça, c'est un point, je crois, tout à fait capital. Alors, la troisième remarque, c'est que, et nous touchons là, je crois, quelque chose d'assez essentiel, c'est que la démocratie repose bien, en effet, sur une philosophie de la raison. Et ça, Erivaille le dit très bien. Et donc, elle s'appuie sur un postulat, qui est un postulat par certains côtés invérifiable, mais qui est un postulat vivant, pertinent, qui permet, qui donne des résultats fructueux, pas toujours, à savoir que tout homme est capable de vérité. Tout homme est capable de vérité. On pourrait encore citer le texte de Tocqueville, mais le temps passe, je laisse de côté. Tout homme est capable de, au fond, de pressentir ce qu'est son bien, de s'engager à défendre ce qu'il tient pour vrai, à contester ce qui lui paraît indigne de son bien ou contraire à son bien, et donc capable de se rallier à ce qu'on lui présentera comme vrai, qu'il ne va pas inventer de lui-même, illusion de l'autonomie et d'homme autoconstruit. Mais après enquête, interrogation, discussion avec d'autres, tout homme est capable de se rallier à une certaine vérité, à un certain bien. Et donc il y a un lien, je crois, intrinsèque entre la philosophie, une certaine raison partagée par tous, et la démocratie. Alors, on s'appuie en général sur la Grèce ancienne, et c'est tout à fait vrai que la Grèce ancienne a développé cette idée de la démocratie, de la raison, mais faisons attention quand même que la Grèce antique n'accordait pas la raison également à tous. Elle accordait la raison, il faudrait que je rappelle ça à ceux qui sont tellement admirateurs de la Grèce antique, feu Madame de Romilly, Lucien Gerfagnon et d'autres, Ado. Bon, la raison n'était partagée que par les hommes libres. Or, la démocratie moderne, alors c'est là qu'on peut en effet s'étonner et peut-être même se scandaliser, elle présuppose que tout homme, si peu cultivé soit-il, a quelque chose à dire dans la démocratie. On pourrait dire que pour faire vite, évidemment, le christianisme est passé par là. Il n'y a plus ni homme ni femme, ni maître ni esclave, ni grec ni juif, tout homme. Et nos démocraties sont quand même un peu les héritières de ça. Et on peut dire que c'est une folie. Évidemment. Alors, on voit les objections à nouveau. Ah bon? Alors, le clochard qui ne connaît rien à rien, qui n'a pas un sou en poche, il va pouvoir voter comme vous et moi? Le type non cultivé, etc., idiot, va pouvoir voter comme vous et moi? Ben oui. Alors, on voit très bien le scandale, c'est sûr. Mais c'est quand même ça la démocratie, c'est qu'elle parie que... Parce qu'on en reviendra toujours là, ce que je disais tout à l'heure. Si vous dites seulement quelques-uns, qui? Alors, on peut faire allusion aux difficultés concernant le suffrage universel. On peut s'étonner que le suffrage universel n'ait été répandu, disons, dans un pays comme la France, qu'à partir de 1945. De Gaulle en particulier, pour les femmes. Mais l'idée, c'était celle-là, c'est que quand même un peu Platon. Pour diriger un pays, il faut des gens qui soient capables de prendre des responsabilités. Qui prend des responsabilités sinon les pères de famille? Donc on donne le droit de vote aux pères de famille. Mais pas tous les pères de famille, parce que ceux qui n'ont aucun bien à gérer, ils sont irresponsables. Donc les pères de famille fortunés. Vous voyez? Donc on va dire, oui, on va donner le droit de vote, mais aux gens qui ont une certaine fortune, qui ont des propriétés, et aux mâles. Pères de famille, célibataires, pas très sûr. Et on a étendu peu à peu en disant, mais voilà, vous voyez, c'est toujours la même idée, c'est-à-dire qu'il faut, pour voter, pour prendre des décisions, il faut être responsable si on ne l'est pas. Alors pour nous, aujourd'hui, ça paraît des arguments évidemment assez aberrants, mais c'était quand même ça, toujours la même idée, c'est qu'il y a quelque part des gens plus compétents que d'autres. Et évidemment, la logique démocratique, un beau jour, elle fait sauter ce point, c'est-à-dire qu'elle dit, mais non, tout homme. Et d'une certaine façon, il n'y a pas en démocratie un magistère qui sache. Alors que dans l'Église, il y a un magistère qui sache, encore qu'on s'aperçoit que souvent il a erré, surtout en matière pratique. Enfin, admettons que sur le plan dogmatique, il y a un magistère. En matière politique, il n'y a pas de magistère. Il y a le magistère du peuple. Alors, je vous renvoie au texte de notre ami Weil, que je vous ai donné la dernière fois. La démocratie suppose bien un régime de vérité partagé par tous, mais d'une vérité qui ne s'atteint que dans le débat. Et on pourrait citer ici de très beaux textes de John Stuart Mill, le fondateur de l'utilitarisme, qui dans un petit livre s'appelle « De la liberté »,« On Liberty », qui affirme qu'une vérité n'est une vérité que si on peut la discuter. Une vérité qui s'imposerait sans qu'on puisse en discuter ne serait pas une vérité. On peut discuter ce point, mais je trouve qu'il y a une très belle idée. La vérité doit accepter, si elle est la vérité, l'épreuve de la critique. Et elle se fortifiera d'autant plus, nous dit John Stuart Mill, qu'elle aura subi le feu de la critique. Elle sera d'autant plus faible qu'on dira on n'en parle plus. Alors Jean-Paul II pourrait, sur la place des femmes dans l'Église, l'ordination des femmes, n'en parlera plus. Ah bon, ça prouve la faiblesse de votre argument. Vous l'écartez du débat, parce que vous n'avez pas d'argument. Voilà ce que dirait Stuart Mill. Je reprends un peu à mon compte. Vous n'avez pas d'argument. Si vous avez des arguments, les voilà. Et vous fortifieriez vos arguments dans la discussion, peut-être en vous obligeant à en changer. Alors, je termine tout à fait là-dessus en disant qu'au fond, la force de la démocratie tient dans sa faiblesse, pour parler comme Saint Paul. La force de la démocratie, c'est qu'elle accepte de se remettre en cause. C'est qu'elle ne dit pas « le système de loi que je vous propose est le seul vrai ». Système fiscal, notre justice, c'est la seule vraie, la seule juste. Ah non, non, on accepte de dire, ben écoutez, oui, il y a des défauts et donc on en discute. On va faire un débat, on va tâcher d'améliorer ce qui se passe dans les prisons, c'est pas très populaire effectivement, mais enfin bon, on peut. Notre système fiscal n'est pas heureux, notre système, etc., scolaire n'est pas très bon. On l'avoue. La force des démocraties, elle tient dans cet aveu. Si certains d'entre nous ont connu par des visites les régimes soviétiques totalitaires, dans ces régimes soviétiques, quand on y allait, c'était merveilleux. La presse disait toujours la même chose, toutes les radios disaient la même chose. C'était le calme, pas de manifestations dans les rues. Donc on pouvait dire, regardez cette tranquillité, cette force. Et on entendait les communistes dire, moi chez vous c'est la pagaille, vous avez des meetings tous les jours dans les rues, c'est pas ça gueule dans tous les coins, c'est pas, vous êtes sur le point de vous effondrer. Ben justement, comme dit très, je crois, avec beaucoup de force Lefort, c'est précisément dans le débat, dans les contradictions, que la démocratie se fortifie. Elle est forte précisément dans cette apparente contradiction continue, ce désaveu continu. Parce que c'est comme ça, justement, qu'elle progresse. Parce qu'elle accepte de reconnaître qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Tandis qu'un régime totalitaire, c'est un régime de vérité, tel qu'il semble rêvé par Jean-Paul II, c'est un régime qui ne bougera pas. Si on a la vérité, on ne bouge plus. Donc c'est un régime extraordinairement fragile. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Bon, je laisse de côté la conclusion que j'avais prévue là sur le plan démocratie-république, c'est un peu secondaire. Mais on peut, si vous le souhaitez, discuter de ces points, de cet ensemble du chapitre. On passe à la suite. On sait quoi, la vérité est plus dynamique. Est-ce que tu vois une vérité? Oui. Dans la relation. Oui, tu dis relation juste. C'est pas tout à fait vérité. Une relation juste, c'est une, on cherche une adéquation, mais cette adéquation, elle est toujours mobile. Parce qu'on voit bien ça dans un couple, ou même simplement entre amis. Si on se fixait sur une relation une fois pour toutes, c'est la mort de l'amour et de l'amitié. Parce que l'un et l'autre ne cessent de bouger, les circonstances changent. Donc il faut de la souplesse. Et l'idée de vérité a cet ennui, me semble-t-il, d'être un peu fixiste, mais c'est peut-être moi qui vois les choses de travers, hein. La vérité, elle est toujours mobile, et surtout dans le domaine pratique. Si on reste avec des carcans ou dans l'illusion que la vérité est là et que, voilà, deux font quatre, c'est pas la peine de discuter en 50 ans, c'est vrai. Mais est-ce que les vérités de type moral ou relationnel sont de ce type? Certainement pas. D'ailleurs, si on réfléchissait, puisque tu parles de l'Église catholique, moi je crois qu'il faut plutôt réfléchir dans la ligne d'un Thomas d'Aquin, c'est-à-dire d'un Aristote, qui parlera plutôt du bien commun. Alors, dans ce bien commun, il y a une vérité, si on veut, mais c'est le bien qu'on cherche avec difficulté, en mettant en œuvre tous les paramètres dont on dispose, aussi bien les paramètres techniques, le calcul, le coût de l'opération qu'on va faire, mais la réaction des gens. Le rôle du responsable, je vais y venir si on a le temps, de responsable politique, c'est quand même ça, c'est-à-dire de calculer ce que va coûter telle ou telle décision, ça, du point de vue financier. Mais aussi de se demander qu'est-ce que les gens accepteront. Et on voit bien qu'il y a des réformes impossibles parce que les gens n'en veulent pas. Parce que peut-être, on va peut-être pas expliquer, etc. Mais ça servira à rien de faire passer des réformes coûte que coûte, sous prétexte qu'elles sont vraies, si l'opinion publique les rejette. Comme ça. Alors, des rôles des responsables politiques, c'est précisément d'expliquer, de dire voilà pourquoi on va prendre telle décision, voilà pourquoi on va réformer les impôts, ce qu'il ne faut pas beaucoup, il faut bien en convenir, parce qu'ils vont dans le sens du poil. Est-ce que, je ne sais pas, moi je suis réticent à ce. Parce que je crois que c'est plutôt l'idée de bien qui implique évidemment certaines vérités, mais ce n'est pas la vérité qui conduit dans le domaine pratique, hein, c'est. Quand on aide quelqu'un, c'est parce qu'on estime que c'est bien de le faire et qu'on fait son propre bien. Quand vous allez voir un ami à l'hôpital, c'est pas la vérité qui vous conduit, c'est bien de la relation. Maoïste même. Oui, il faut le faire, oui. Oui, mais Badiou figure, autant que je le connaisse, parce que je ne le fréquente pas énormément, mais il figure dans les antidémocrates pour un peu pour les raisons qu'on a dites, c'est-à-dire que on est, si vous suivez la masse qui est aliénée en plus, parce qu'il y a l'idée du capitalisme, la masse aliénée par le profit, par la recherche par la publicité, etc., il ne faut pas se confier à la masse. Ça, c'est clair, c'est un peu l'extrême gauche, hein, c'est ça, il ne faut pas se confier à la masse, parce que la masse, elle est elle-même déjà aliénée par toute espèce de représentation qui vient du capitalisme. Donc, il faut chercher ailleurs. Soit une minorité active, soit les révolutionnaires professionnels dont parlait Lénine, etc. Bien sûr, ça, c'est l'idée de. Padiou, qui est d'ailleurs assez effrayante, hein. Oser se dire maoïste encore aujourd'hui, c'est quand même quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est son petit livre sur Saint-Paul, vous avez raison, parce qu'au fond, Badiou, comme d'autres, est un de ceux qui a été élevé dans le bon giron de notre université laïque, et la Bible et tout ça, ça n'existait pas. Puis un beau jour, il s'est quand même dit, mais tout de même, nos démocraties, le sens de l'homme, ça vient d'où? Est-ce que peut-être le christianisme ou la Bible n'aurait pas quelque chose à... Il est allé mettre son nez dans Saint-Paul. Et il a quand même été surpris de ce qu'il y découvrait, et notamment ce que vous dites sur l'universalisme. Alors ça, c'est de très belles pages, oui. Et puis alors, en plus, c'est même amusant, il défend la position de Saint-Paul sur les femmes. Vous avez... Bon, il n'est pas particulièrement féministe. Ça fait partie de ses paradoxes. Le seul ennui, c'est que quand même, si je me souviens bien, au début, il commence par dire, bon, je vais étudier Saint-Paul, mais alors, évidemment, tout ce qu'il dit sur le Christ ressuscité, ça, je mets de côté, ça n'a aucun intérêt. Bon, alors, très bien, on est prévenu. Parce que vous enlevez des textes pauliniens croyant sur la résurrection, alors il ne reste pas grand-chose. Bon, mais c'est quand même intéressant. Mais c'est un peu ce que, oui, vous n'êtes pas en dehors du sujet, c'est cette critique sur la vérité. On ne peut pas faire confiance à la masse, quoi, à la multitude. Tony Negri, c'est un peu cette Zizek, pour citer tous ces gens un peu déjantés. Oui, c'est toujours cette objection, la démocratie. Alors, j'ai pas repris le temps, parce qu'on pourrait faire une critique marxiste que je viens de dénoncer, c'est-à-dire la masse est subvertie par des attentes illégitimes, elle est prise par le désir de consommer, etc. Bon. Donc, elle voit pas ses véritables intérêts, c'est toujours la même histoire. Nous, les bons marxistes, ou nous, l'extrême gauche, nous les connaissons. Oui. Absolument. Bien sûr, là vous avez entièrement raison. Quand j'ai parlé, quand j'ai cité Tocqueville, j'ai bien dit qu'une démocratie, nos sociétés, véhicule un ensemble de références que nous recevons. Parmi ces références, il y a évidemment le décalogue. Oui. Ah, tout à fait. Mais alors, je vous avais dit, le tu ne tueras pas, c'est une vérité. C'est un interdit, ce qui n'est pas la même chose. C'est un interdit formel. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas tuer? Alors, vous comprenez, qu'est-ce que c'est ne pas tuer? Ne pas voler, ça veut dire quoi? C'est un principe formel qui nous oblige à nous interroger. Alors, on voit bien, à travers des débats sur l'euthanasie comme sur l'avortement et d'autres, que nos sociétés sont tentées de piétiner ce genre d'interdit. Et donc, du coup, d'ouvrir la voie au chaos, ce que dit très bien la Bible. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore traité la question de savoir comment va-t-on se rapporter aux personnes en fin de vie. Alors, on peut dire l'interdit nous impose de ne pas poser un certain nombre de gestes qui précipiteraient la mort des gens. Mais, par exemple, les soins palliatiques vont dire ben, la mort est inéluctable. Cette personne est à un stade tel que c'est pas la peine d'employer des moyens disproportionnés, mais cette personne a encore quelques jours à vivre, il faut l'aider à vivre le mieux possible sa mort. Donc on va dire, nous ne la tuons pas, mais nous laissons les choses aller, mais nous donnons tout le confort voulu pour qu'elle meure correctement. C'est pas la même chose que de... Alors voilà, c'est une limite Mais c'est pas une vérité, c'est un interdit qu'on s'interdit de braver par les soins palliatiques. Faut pas lâcher, vous pensez à quoi? Oui. Ah, on l'a dépassé, oui, par certains côtés. Alors, je dis en même temps, le totalitarisme, il vous oblige à poser un certain nombre d'actes. Nos démocraties ne vous imposent pas de tuer des gens. C'est-à-dire, si vous êtes médecin, vous n'êtes pas obligé de faire des avortements, et vous n'êtes pas obligé non plus de rentrer dans les perspectives du suicide assisté. Parce que vous voyez, le mot totalitarisme devient fou. Les totalitarismes, c'est qu'on vous impose une conduite au nom de l'État ou au nom de l'idéologie. Nos sociétés démocratiques, en effet, peuvent avoir des lois qu'on peut estimer mortifères, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. Et vous pouvez même objecter à leur égard. Et vous pouvez même relancer le débat public. Personne ne vous interdit d'écrire dans les journaux, de voter pour un parti qui dit, ben, au lieu d'ouvrir indéfiniment l'avortement, il faudrait quand même faire attention. Donc on ne vous impose pas une vérité. Et d'autre part, si on pose ces questions, c'est qu'il y a des problèmes qui se posent. Si j'avais le temps, mais je n'aurais sûrement pas le temps, c'est le problème du droit. Est-ce que le droit, ça c'est la position de Jean-Paul II, doit être conforme à la morale? Quelle morale? Or, le responsable politique, il doit résoudre des problèmes. Il y a de fait, puisqu'on parle de l'avortement, des femmes en situation de détresse sur ce point. Le législateur se doit bien d'aborder ces questions, pas en ouvrant indéfiniment comme on l'a fait, mais en tâchant de trouver des solutions à hauteur de la dignité humaine. Et c'est la croix, en effet, du responsable politique. Alors, il en fait trop, il n'en fait pas assez, il interdit tout, mais si on prend la position de Jean-Paul II, on dit il faut interdire absolument l'avortement. Par la loi. Très bien. Vous croyez que vous allez faire cesser pour autant les avortements? Vous aurez affaire à des avortements clandestins. Les femmes qui sont avortées passeront entre les mains de, comme on disait jadis, de tricoteuses. Oui, mais est-ce que c'est, oui, l'abolition de la, pour l'alcool. Bon, est-ce que c'est tellement mieux? Ben, c'est le problème du mal qui est derrière ça, hein. C'est-à-dire que l'homme politique, il a affaire avec le mal. Il ne faut pas qu'il ouvre la voie, effectivement, au mal. Il faut qu'il tâche de le canaliser autant que faire se peut. Mais il ne peut pas faire comme si le mal, la loi allait supprimer le mal. Ça, je crois que c'est l'illusion chrétienne par excellence. Qui n'est pas thomiste, d'ailleurs. Hein. Oui. Oui, là, on peut toujours se battre indéfiniment sur les chiffres, et je crois qu'il faut toujours se méfier, parce qu'on a toujours tendance à les grossir dans le sens où on veut aller. Non, je crois qu'il faut s'en tenir au niveau des principes dans cette affaire. Alors, sur le premier point, être vérité, etc., ça c'est au niveau transcendant, dit saint Thomas. Mais dès qu'on tombe dans le pratique, vous n'êtes plus dans cette équivalence des choses. Vous êtes dans la finitude. Vous êtes dans l'ordre de la contingence, comme dit saint Thomas. Vous pouvez pas le bien et le vrai ne communiquent pas concrètement et pratiquement dans la vie courante, dans la vie commune. Donc, ce qui vaut à un niveau métaphysique, il ne faut pas le transposer au niveau pratique et au niveau moral, parce que sinon on fait des erreurs. Alors, sur le dernier point, moi je ne dis pas du tout que la discussion doit aller à volo. Elle suppose en effet la référence à des principes, à un certain sens de l'homme, ça tout à fait. À un certain sens de la relation de l'homme et la femme. Ça, bien évidemment, sinon il n'y a pas de discussion possible. On discute qu'à partir de principes qu'on s'est donné. Et nos sociétés, je crois, s'honorent de dire, de sociétés démocratiques, qu'il faut avant tout respecter la dignité de l'homme et de la femme, de tout homme, quelle que soit la couleur de sa peau, son âge, etc. Mais ça veut dire quoi, respecter la dignité concrètement? Ça suppose précisément la mise en œuvre d'un discernement concret. Et ce qu'on va faire pour une personne, on ne le fera pas pour une autre. Un médecin va pouvoir proposer, pas imposer, un traitement de choc à une personne qui a encore pas mal de possibilités, faire une opération un peu rude, parce qu'il sait que son cœur tiendra le coup, parce que bon, mais il ne proposera pas ça à quelqu'un qui est déjà très endommagé et que ça va achever un peu plus. Donc on va dire, écoutez, voilà l'opération qu'il faudrait faire, mais on ne peut pas, parce que vous avez un cœur qui n'est pas solide, parce que... Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tâcher de respecter la dignité de cette personne, mais on va prendre des moyens tout à fait différents dans un cas que dans l'autre. Donc c'est pas la vérité de l'homme, c'est la vérité de cette personne, pour autant qu'on la connaisse, et que le médecin la connaisse. Donc je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de principe, hein, les commandements de Dieu, bien sûr, les commandements de Décalogue, ça fait partie. Quelle société pourrait dire... Regardez la difficulté quand même autour de l'euthanasie. Qui pourrait dire on peut tuer comme on veut? Personne ne le dit. On dit, dans certains cas, quand la personne le demande, quand elle est... On essaie de tortiller autour de l'interdit, mais l'interdit, il est quand même reconnu. Et comment voulez-vous faire autrement? Parce qu'il n'y a plus de vie humaine possible sans ça. Si chacun s'autorisait de tuer son prochain, ce serait pire que la barbarie. Ah oui, je vous disais. Et c'est pour ça, je crois, qu'on voit l'importance du rappel de l'interdit. Et qu'il ne faut pas trop vite dire, puisque cette personne demande d'être euthanasiée, il faut le faire. Je crois que ça appelle à une vigilance. Il ne faut pas trop se précipiter, parce que le principe, l'interdit, il reste fondateur. Donc je crois que c'est très important de rappeler qu'il y a un interdit et que... C'est pas parce que la personne le demande qu'il faut s'exécuter. Ça, tout à fait. Parce que la personne peut s'apercevoir que, bon, elle a demandé ça dans un moment de vertige ou de faiblesse, mais qu'en réalité, elle demande ce qu'elle veut. Et... Allez-y, vous aviez. Oui, c'est ce que je vous dis. Mais c'est bien ça. Eh oui, mais c'est le rôle de la démocratie. C'est-à-dire, ils vous imposent une vérité. D'autre part, il faudrait être sûr qu'ils ont raison. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce qu'il vous arrive... Moi, je me souviens toujours, en 1973, la première crise de pétrole, le Club de Rome, qui était fait de gens éminents, nous annonçait que dans 10 ans, il n'y aurait plus une goutte de pétrole dans les garages. 1973, nous sommes en 2013. Vous allez à la pompe d'à côté, vous allez trouver encore du pétrole. Donc, on se dit, la couche d'ozone, horrible, etc. Personne n'en parle. ce qui paraît qu'elle se reconstitue. Alors, je dirais, bon, l'expert, oui, mais il faut quand même s'en méfier. Parce que l'expert, est-ce qu'il a raison? On voit bien dans le domaine médical, dans tout, l'expert, il a raison. On peut le dire partout, le tout TGV, aujourd'hui, on dit, le tout TGV, c'est hors de port. On va dépenser des millions pour gagner 3 minutes sur Strasbourg. Il faut se méfier de l'expert aussi, parce qu'il se croit, il croit qu'il a la vérité. Est-ce que c'est si sûr? Donc voilà, c'est pas du scepticisme de dire ça. C'est qu'on veut pas non plus laisser embarquer dans des aventures qui seraient, parce qu'on l'a vu maintes fois quand même, hein, que des experts se soient égarés. Au niveau atomique, moi je ne sais pas. Donc je méfie un peu des écolos qui ont toujours tendance à grossir le tableau très. Et, alors pas beaucoup de côtés, ils ont raison. C'est sûr que qui est-ce qui est prêt vraiment dans nos démocraties. Mais là aussi, est-ce que les responsables politiques, mais pas seulement les responsables politiques, les responsables quels qu'ils soient, ont pris la dimension du problème pour expliquer aux gens et conduire peu à peu à comprendre les enjeux de ces affaires pour accepter des décisions. Personne. À peu près personne. Alors maintenant qu'on a un pape qui s'appelle François, peut-être va-t-il parler aux oiseaux et nous apprendre à parler aux oiseaux. Mais on ne peut pas dire non plus dans l'Église, on était tellement écolo, hein. À part François d'Assise, qui est quand même un peu loin. Cherchez les textes du magistère catholique sur l'écologie. Donc c'est une question nouvelle, c'est une question sur laquelle il faudrait qu'on se penche plus. Mais il faut aussi se méfier quand même un petit peu des experts. Bon, on pourrait continuer cette discussion, mais vous la continuez en vous-même. Elle n'est pas close par définition. Donc, on fait une petite pause. Je vais vous donner un texte d'Eric Weil qui est un peu sur l'ensemble du parcours. Et puis, dans la dernière séance, je vous donnerai une page qui reprend les grands thèmes que nous avons rencontrés au cours de ces séances. Voilà, on peut avancer si vous souhaitez. Alors, je voudrais ouvrir avec vous ce vaste sujet du rapport entre le politique et l'éthique et la morale. Et éventuellement, si on a du temps, dire un mot sur le rapport entre politique et religion, qui supposerait tout un autre développement. Alors, c'est évidemment, tout le monde s'en doute, un très très vaste problème. D'abord, on peut se demander si la politique a quelque chose à voir avec l'éthique et la morale. Et puis, inversement, on peut se demander de quoi parle-t-on quand on parle d'éthique et de morale. De quelle morale s'agit-il? Alors, je reprends la distinction que j'avais déjà faite, me semble-t-il, en passant, entre la morale et l'éthique. La morale relevant d'abord essentiellement des convictions qu'on peut avoir, personnelles, philosophiques ou religieuses. L'éthique renvoyant à un éthos, c'est-à-dire à des manières de faire, à des mœurs, à des règles. Et il est clair de ce point de vue-là que l'éthique, c'est-à-dire les manières de faire dans une entreprise, disons l'éthique économique, ne recoupe pas parfaitement l'éthique médicale, puisqu'on n'a pas affaire aux mêmes relations humaines, aux mêmes problèmes, aux mêmes finalités dans une entreprise ou dans un cabinet médical ou un hôpital. Donc on peut admettre, et nous le reverrons à propos de la politique, qu'il y a une éthique, il y a des éthiques peut-être propres à l'économie, à la médecine, au journalisme, etc., et évidemment aussi aux politiques. Donc j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Je préfère donc parler d'éthique plutôt que directement de morale, bien que les deux s'appellent l'un et l'autre. Alors, par rapport à cette immense question, je voudrais d'abord m'arrêter pour situer les différents niveaux de ce rapport entre l'éthique et la politique. Ensuite, montrer dans un deuxième temps qu'il y a plusieurs façons finalement de situer le rapport entre ces deux immenses domaines et en venir dans un troisième temps à esquisser les éléments d'une éthique politique en m'inspirant un peu de Machiavel et surtout d'Eric Weil. Et puis, si on a le temps, à la fin, dire quelques mots sur le rapport entre nos États modernes et la religion. Alors, je crois d'abord qu'il est quand même très important de distinguer différents niveaux. Comme toujours, il ne faut pas faire des distinctions coupées au couteau, absolument tranchées. Dans la réalité, les choses se tiennent. Mais malgré tout, ces distinctions évitent les confusions ou évitent les unilatéralismes. Et évidemment, quand on aborde ce problème-là, éthique et politique, on est tout de suite porté à s'interroger sur le personnel politique et dire ils sont tous corrompus ou sont des hommes remarquables ou des femmes remarquables, en oubliant d'autres aspects. C'est pourquoi je crois qu'il est important de distinguer le niveau du responsable politique, j'ai mis entre parenthèses le prince, en reprenant la formule ambiguë de Machiavel, je crois qu'elle est utile, la responsabilité des citoyens eux-mêmes et la responsabilité de l'État en tant que tel. Que tout ceci ne marche pas tout à fait sur le même pied. Alors, je crois d'abord qu'on peut s'arrêter, au moins évoquer quelques problèmes concernant la responsabilité politique du prince. Ce que Machiavel appelle le prince, c'est tous ceux qui sont responsables en politique. Ça peut être un individu, un président de la République, un ministre, mais ça peut être aussi tous ceux qui ont affaire à la décision politique. Alors, la question est multiple. Est-ce que le responsable politique doit tenir compte dans ses décisions des références éthiques uniquement, principalement, partiellement ou simplement comme un paramètre entre autres ? Alors, nous aurons l'occasion de voir que certains sont tentés de croire qu'il y a une identification entre l'éthique et la politique, que la politique, c'est la mise en œuvre finalement des principes moraux. Alors, sans aller jusque-là, mais je reviendrai sur ces positions, elle est illustrée par des gens comme Savonarole ou Robespierre, on peut certainement dire qu'il serait difficile que le responsable politique, l'homme politique, ne tienne pas compte au moins comme d'un paramètre de l'éthique, c'est par exemple le respect de la dignité de la personne, le respect de sa parole. Mais on peut évidemment se demander de manière plus globale si en politique la visée de la décision est essentiellement morale ou si elle n'est pas d'abord prosaïque, ce que j'appellerais prosaïque. Et c'est une des grandes affirmations de Machiavel, c'est que ce qu'on attend du prince, c'est qu'ils réussissent. Donc, est-ce que la mesure de jugement de la valeur d'une décision politique n'est pas l'efficacité ? Que dirait-on d'un responsable politique qui échoue ? Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il mette en œuvre des moyens qui aboutissent. Mais on voit très bien le problème, est-ce que tous les moyens justifient tous les moyens sont-ils justifiés par la fin qu'on adopte ? Ça, c'est la grande question que Machiavel a posée, mais que d'autres, évidemment, ont posée. Quelle articulation entre les moyens et la fin ? Alors, la réponse de Machiavel, et je crois qu'elle est quand même juste, nous y reviendrons, je l'esquisse simplement, c'est que une fin implique les moyens pour l'atteindre. Et que il faut en effet, si l'on est un responsable politique correct, savoir prendre les moyens nécessaires à la fin qu'on vise. Et donc le problème consisterait moins à l'analyse des moyens, contrairement à ce qu'on croit, qu'à l'analyse de la fin. Qu'est-ce qu'on veut au juste ? Et en fonction de cette fin, est-ce qu'on prend les moyens adéquats pour y atteindre ? Alors on peut s'interroger sur la finalité, évidemment, et c'est là que peut se poser le problème moral. Est-ce que la fin est bonne ? Alors, on peut prendre l'exemple simple, qui est d'assurer l'ordre public. Bon, il est en effet d'une responsabilité essentielle du responsable politique d'assurer l'ordre politique, la sécurité des citoyens, qu'on ne soit pas flingué dans la rue, que nos voitures ne soient pas volées, etc. Et il faut prendre les moyens pour ça. Mais voilà le problème, est-ce qu'il n'y a pas des moyens qui sont en excès par rapport à la fin ? Alors on voit ça par exemple pour la lutte contre le terrorisme. On peut dire que c'est en effet une responsabilité de l'homme politique ou du prince que de lutter contre le terrorisme. Et nous sommes prêts à accepter des moyens extrêmes pour ça. Je veux dire que nous acceptons qu'on nous palpe le corps dans les aéroports, ce qu'en principe les employés d'Air France ne sont pas habilités à faire. Donc, mais nous acceptons qu'on ouvre nos sacs, qu'on fouille nos bagages, etc. Bon, parce qu'on sait très bien que c'est pas pour nous ennuyer, mais que c'est pour éviter des choses qui nous se retourneraient contre nous. Mais il y a tout de même une limite, c'est-à-dire qu'on voit très bien que la lutte contre le terrorisme risque d'entraîner à une société de surveillance généralisée qui se retournerait contre la démocratie. Et on peut en effet s'interroger sur les systèmes de caméras de surveillance qui font que, sur tous les quais de métro, sur tous les trottoirs, bientôt on va avoir des caméras pour surveiller les gens, de telle sorte qu'on saura à quelle heure vous avez pris le métro, combien de temps vous avez attendu sur le quai de la gare, etc. Et j'entendais dire que comme il y a des gens qui cassent les caméras, alors on met une caméra pour surveiller la première caméra et une troisième caméra, etc. Bon, donc vous voyez, ça, on tombe dans un univers ubuesque. Alors, voilà, mais le problème est réel, c'est-à-dire que le responsable politique se doit bien assurer la sécurité des citoyens, quel moyen prendre ? Voilà la question, je dirais, morale. Et si le moyen excède par rapport à la fin à atteindre, et il est évident qu'à ce moment-là se pose un problème à la fois politique et un problème moral. Alors, se trouve en question aussi dans le problème du prince, je y ai fait allusion dans les fois précédentes, c'est la responsabilité. De quoi un homme politique, ou une femme politique, je ne veux pas toujours répéter le masculin et le féminin, de quoi, disons, un responsable politique est-il responsable ? Ça paraît une question simple, mais en réalité, elle ne l'est pas du tout. De quoi est-il responsable ? Jusqu'où va sa responsabilité ? Alors, on le voit bien dans les problèmes de la santé. Bon, nous avons eu des ministres être poursuivis en justice à cause du sang contaminé. On pourrait dire, à la limite, les malheureux, ils n'allaient pas faire les transfusions sanguines, ils n'avaient pas contrôlé le sang. Et là encore, il y avait des experts, en particulier un expert célèbre, M. Jacob, qui était conseiller de la santé auprès du Premier ministre, qui était à l'époque Fabius, semble-t-il, n'a pas lui-même vu les risques de prendre du sang de gens qui étaient déjà contaminés, de transfuser à d'autres. Alors, si l'expert lui-même ne voit pas, le responsable politique, est-ce qu'on peut l'accuser de ne pas avoir vu ? Et quelle anticipation l'aurait ? Alors, il faut rendre hommage à Fabius quand même, que dès qu'il a été averti des dangers, il a stoppé les choses. Donc, il y avait une espèce de sens politique qui l'amenait à prendre une décision que l'expert n'avait pas nécessairement justifiée. Alors ça, je crois que c'est un énorme problème. Jusqu'où va la responsabilité de l'homme politique ? Et je ne prétends pas, évidemment, le résoudre ici. Mais je crois qu'il y a quand même un problème à la fois de responsabilité politique et de responsabilité éthique. Mais l'essentiel, je crois, c'est quelle est la fin visée et quels sont les moyens utilisés. Bon, ça c'est une première chose, je dirais, à prendre en compte de la responsabilité proprement dite de l'homme politique. Mais il y a un deuxième niveau, c'est le niveau le niveau des citoyens, que l'on pose rarement comme tel. Et on peut l'élargir en parlant avec Eric Weil de communauté politique, sans mettre un sens communautariste à ce mot de communauté. Car on peut se demander si, au fond, un certain nombre de responsables politiques prennent des décisions irresponsables, ou encore si, dans quelle mesure, ils deviennent eux-mêmes corrompus, ce n'est pas parce que les citoyens laissent faire, voire même sont complices de cette corruption. Est-ce que, par conséquent, on ne pourrait pas se dire, si les citoyens eux-mêmes étaient plus moraux, plus vigilants, plus exigeants, ils imposeraient finalement aux responsables politiques une plus grande vigilance éthique et morale ? Ou encore, est-ce qu'une communauté qui serait éthiquement forte ne serait pas le meilleur barrage contre l'immoralité des princes? Mais peut-on tenir ceci pour acquis? Machiavel admirait beaucoup certains cantons suisses où la moralité publique était telle qu'il n'y avait pas besoin de faire de loi pour les impôts. on s'en remettait aux citoyens pour payer des sommes suffisantes pour entretenir le canton ou la commune. Et ça marchait. Alors, Machiavel admire à quel point l'éthique, enfin la force morale de cette communauté dispensait de loi et faisait en sorte que les citoyens, conscients de leurs responsabilités, eh bien, ne cherchaient pas à tromper le fisc, mettaient librement ce qu'il fallait. Mais bien entendu, Machiavel, qui n'est pas, comme vous savez, un enfant de cœur, reconnaissait aussitôt que ce genre de communauté est quand même plutôt rare. Mais la question est évidemment de savoir si une société corrompue n'entretient pas ou n'admet pas un prince corrompu. Ferme les yeux. Une communauté corrompue finit par ne plus voir l'injustice, le trafic d'influence, le cynisme des hommes politiques. Et il y a quelque chose d'inquiétant à constater, par exemple, que les citoyens dans un pays comme le nôtre, mais je crois que ce n'est pas une exception, réélisent régulièrement des hommes politiques qui ont été condamnés par les tribunaux et qui ont été condamnés à juste titre. On ne leur en tient pas rigueur. Ils ont tapé dans la caisse ou ils ont fait je ne sais quoi, ou ils ont connu quelques années de prison ou de suspension de mandat. Eh bien, par une espèce de revanche, n'est-ce pas, le citoyen va voter pour lui. Alors, c'est quand même un peu curieux, parce qu'on serait tenté de se dire, si les gens avaient un peu d'exigence éthique, ils ne rééliraient pas, si habile soit-il, le maire d'une commune ou le député qui a été condamné pour corruption. Alors, on voit très bien que, en effet, la corruption des princes, et je rejoins le premier point, elle peut se développer lorsque le citoyen est indifférent à la chose publique, quand il ne s'intéresse plus à la chose publique, quand il s'en détourne, ou quand il a une passivité tout à fait considérable qui fait que le responsable politique peut user et abuser des moyens d'influence, des copains, etc. Et de ce point de vue-là, l'indifférence politique que nous connaissons malheureusement dans nos régimes, par exemple à travers l'abstention, l'indifférence politique de la masse est une façon indirecte d'entretenir la corruption. Alors les mêmes qui ne vont pas voter vont dire « je vote pas parce qu'ils sont tous corrompus », mais ils ne voient pas que lui-même, par son abstention même ou par son indifférence aux politiques, il entretient tacitement la corruption. Alors là, on a une espèce de cercle. J'ai cité Machiavel, je vais le citer à nouveau, et je vais citer Tocqueville. Machiavel, contrairement à ce qu'on pense, est un homme qui est très sensible à cette éthique du politique. Et il est très sensible à l'idée que le prince ne sera pas moral ou politique si le peuple lui-même n'est pas exigeant. Je vous dis une phrase ou deux qui sont tout de même très, très impressionnantes. Lorsque la masse est corrompue, les meilleures institutions ne sauraient être utiles. C'est-à-dire, si vous avez un peuple corrompu, c'est pas en lui donnant les plus belles institutions sur le papier que l'on s'en sortira, parce que la corruption va gangrener la Constitution elle-même. Voilà, ça c'est, voilà. Donc un peuple corrompu, même vous lui donnez une très belle Constitution, parfaitement harmonieuse, parfaitement équilibrée, on va finir par la tourner. Vous voyez, les mafias vont finir par s'en emparer et détourner les meilleures institutions. Ou encore ceci, il y a si loin, il n'y a ni loi, ni Constitution qui puisse mettre un frein à la corruption universelle. Car, comme les bonnes mœurs, pour se maintenir, ont besoin de lois, les lois, à leur tour, pour être observées, ont besoin de bonnes mœurs. C'est le cercle. C'est-à-dire qu'un peuple qui est corrompu, il n'y a pas de bonnes mœurs, vous pouvez lui donner toutes les lois qu'il voudra, et ce n'est pas les lois qu'il réformeront. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait un grand optimisme ici. C'est quand même de dire, ben voilà, un peuple corrompu, il acceptera n'importe quoi, et il y a de grands risques qu'il en soit ainsi. Ça pose quand même de graves questions, et ça pose aussi le problème de la moralité des citoyens. Problème qu'on passe souvent sous silence. Et des sources de la moralité. Et aussi, il y avait un reportage sur Marseille, si vous l'avez peut-être vu, c'est proprement effrayant. Parce que les gangs jouent sur la peur des gens, les gangs de la drogue jouent sur la peur des gens, et parce que les gens n'ont pas la capacité de résister, la corruption gagne, les policiers eux-mêmes se laissent gagner par l'argent. Donc, des policiers corrompus vont mimer des gangs corrompus, et si les policiers sont eux-mêmes corrompus, ben, comment va-t-on poursuivre les gangs? Les gangs vont jouer sur les policiers seront complices des gangs qui leur donneront de l'argent, etc. Et c'est vrai du citoyen lambda, c'est-à-dire si le citoyen supporte n'importe quoi, accepte le vandalisme et ainsi de suite, ben voilà, c'est l'exemple, je crois, que voit Machiavel. Alors, je voudrais citer Tocqueville, parce que j'ai déjà cité tout à l'heure, mais Tocqueville, qui voit bien que la démocratie développe l'individualisme, s'inquiète un peu de ce développement. D'un certain point de vue, l'individualisme est une bonne chose, c'est parce que c'est l'individu qui doit prendre sa vie en main, donc c'est tout de même l'équivalent de la liberté, l'individualisme. Mais en même temps, un individualisme excessif, qui va verser dans ce qu'il appelle l'égoïsme, va détourner de la chose publique. C'est-à-dire que le citoyen ne va plus s'intéresser qu'à ses propres intérêts et se détourner de la chose publique. Alors, je crois qu'on pourrait dire qu'il y a là, malheureusement, une grande actualité. C'est-à-dire que chacun fait ses affaires, puis, bon, la politique, finalement, on s'en fiche. Alors, c'est ce qu'il appelle le règne d'un despotisme. Il ne parle pas de totalitarisme, lui, mais il parle d'un despotisme doux. Je vais lire un petit passage qui est très célèbre. Voilà, c'est donc toujours dans la deuxième partie, deuxième livre, quatrième partie, chapitre 6. Donc là, de temps en temps, Tocqueville fait une anticipation sur l'avenir et il redoute un avenir despotique dans les démocraties. Et voilà ce qu'il écrit. « Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme, bon, despotisme c'est évidemment la monarchie absolue, pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes, semblables et égaux, qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux retiré à l'écart, j'ajouterai devant son poste de télévision, est comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul. Et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela, donc ce grouillement de la foule qui passe son temps à zapper, des petits plaisirs, etc., s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Despotisme doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, sécurité sociale, etc. Facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise leurs héritages, que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre. Et c'est assez cruel et je crois que c'est même assez actuel. Alors on pourrait aussi prendre le prologue de Ainsi parlait Zarathoustra, n'est-ce pas, la foule qui cherche son petit bonheur, ses petits plaisirs, ses petites peines, pas plus, et qui n'a rien à foutre de ce que Zarathoustra lui demande, à savoir de se surmonter soi-même. Voilà, donc, je crois qu'il faut bien mesurer cette espèce de sommeil moral, éthique, que peut engendrer l'individu. Chacun s'occupe de ses affaires et se désintéresse du bien public. L'individualisme mortel pour la démocratie. Alors, il y a un troisième niveau, c'est celui de l'État proprement dit. Le principe moderne de la souveraineté et le principe corrélatif du respect du droit, y compris par l'État qui en est le garant, est-il ou non de nature morale? Est-ce que, en s'obligeant à respecter le droit, l'État ne s'oblige pas de manière éthique et morale lui-même, posant des limites à son action? On pourrait retrouver ici Montesquieu. Mais qu'est-ce qui est en jeu dans cette idée de respect du droit par l'État? Qu'est-ce que l'État respecte au juste? Et y a-t-il des valeurs qui sont en jeu? Alors, il y a évidemment des valeurs qui sont en jeu. On peut dire, j'y ai fait allusion tout à l'heure à propos du terrorisme, que la valeur cardinale que l'État poursuit, outre le respect des droits, c'est la sécurité physique des citoyens. Vous vous rappelez que pour Hobbes, la chose essentielle, c'est que les citoyens ont peur les uns des autres, ils sont dans une crainte mutuelle, et que le rôle de l'État souverain, c'est précisément de faire baisser la peur mutuelle et d'assurer la sécurité physique. C'est bien une valeur éthique, car il vaut mieux circuler librement dans les rues que de risquer de trouver un sniper, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire un franc-tireur qui vous tire dans les tibias. Alors, est-ce que l'État est essentiellement motivé par cette recherche de sécurité? Et certains diront, c'est ça et rien d'autre. On pourrait dire, le libéralisme politique, dans sa forme extrême, dit ça. L'État gendarme, mais il s'occupe de rien d'autre. Ou est-ce que l'État moderne n'a pas aussi le souci de l'égalité et de la liberté? Et nous retrouverions Rousseau, c'est-à-dire pas seulement la sécurité physique, mais déjà cette valeur très difficile à définir qui est la liberté. Enfin, liberté d'expression, liberté d'association, liberté de circulation, c'est déjà autre chose que la sécurité. Je ne suis pas inquiété si je pars à l'étranger, si je voyage dans le pays. Bon, personne ne va me soupçonner de mener un complot. Ou bien encore, est-ce que la visée de l'État n'est pas encore plus profonde, nous pourrions dire avec Hegel et par certains côtés Eric Weil, de travailler à la mise en place d'une vie commune raisonnable et sensée. Donc pas seulement d'assurer la sécurité dans les rues, pas seulement d'assurer liberté d'expression, de circulation et tout ce qu'on voudra, d'association, mais de travailler à une vie raisonnable et sensée, de permettre à chacun de trouver une vie raisonnable et sensée. Donc non pas seulement de vivre dans la peur, non pas seulement de jouir de la liberté d'entreprendre, etc., mais aussi d'avoir une vie sensée. Alors on retrouve, c'est pas que l'État va vous imposer ce que c'est qu'une vie raisonnable, mais il va vous donner les conditions d'eux. On retrouverait ici le problème de la laïcité. L'État vous assure la liberté religieuse, mais il vous dit pas à quelle religion il faut adhérer. Vous pouvez ne pas adhérer à une religion du tout. Mais il assure les conditions de possibilité d'une vie sensée, si vous le souhaitez. Bon, on a déjà là donc des niveaux de responsabilité éthique qui ne sont pas les mêmes, et les réponses ne seront évidemment pas les mêmes. On pourrait encore se poser la question, non pas seulement au niveau de l'État, mais au niveau de la démocratie elle-même. C'est-à-dire que la démocratie, nous l'avons déjà dit et nous l'avons repris tout à l'heure, elle suppose bien un certain nombre de règles du jeu, la majorité devant respecter la minorité, mais aussi un certain nombre de valeurs, de principes, d'interdits, sans lesquels la vie humaine ne serait pas possible. Donc ça serait menacé. Donc je dirais déjà à ce niveau-là, on s'aperçoit que l'État ou la démocratie a bien aussi une référence éthique à honorer. Même cette référence éthique, je dirais qu'elle est à plusieurs niveaux. Je ne dirais pas qu'elle est flexible, mais elle est à plusieurs niveaux. Alors, je reviens dans une deuxième partie sur les questions que cela pose. Parce que, je recommence par la fin, on pourrait se demander si l'idée de souveraineté étatique ou de souveraineté populaire, malgré ce que je viens de dire, n'exclut pas par certains côtés toute référence à l'éthique. Par exemple, on va parler de raison d'État. On va dire la souveraineté moderne implique que l'État ait des moyens d'action, ait des procédures qui vont échapper aux citoyens lambda. Si, en effet, l'État est le garant de la sécurité de tous, il est une puissance absolue, enfin qui ne dépend d'aucun autre, cela semble en effet conduire à l'idée de raison d'État, c'est-à-dire à l'idée que tout ce que fait l'État, au fond, serait ipso facto juste serait justifié et même impossible à contester par quiconque, l'obéissance du citoyen. D'où le problème de la raison d'État et le problème du secret d'État, qui est un problème extrêmement difficile. Alors, je signale, avant de revenir à ça, que cette idée de raison d'État, elle n'est pas développée, contrairement à ce qu'on croit souvent, par Machiavel. Mais elle est développée par un quasi-contemporain qui s'appelle Giovanni Botero, B-O-T-E-R-O, qui écrit un livre qui s'appelle « Della ragione di Stato », écrit en 1589, c'est lui qui s'inspire de Machiavel, mais ce n'est pas dans Machiavel, développe l'idée de raison d'État. C'est-à-dire, et il en tire d'ailleurs toutes les conclusions. Alors, quelles sont ces conclusions? Eh bien, d'abord, c'est que la première, c'est que, ne serait-ce que pour assurer la sécurité des citoyens, l'État est en droit à la possibilité, quelquefois il est dans la nécessité, de déroger par rapport au droit commun. Il a le droit de faire un certain nombre d'actes que ni vous, ni moi, ni aucun citoyen n'a le droit de faire. De telle sorte que quand je disais tout à l'heure, l'État de droit se doit de protéger le droit et les droits, on dira « ok, bien sûr », mais il a tout de même la prérogative, dans un certain nombre de cas, d'aller contre la morale commune. L'État est en droit de se permettre des actes que le droit et la morale réprouvent en raison de circonstances exceptionnelles, et bien entendu, au niveau des justifications, au nom du bien public, du salut de la communauté, de la volonté générale. Donc, il faut admettre des exceptions de la part de l'État à la morale commune. Les services secrets vont se permettre d'utiliser des moyens de repérage des gens, de suspicion à leur endroit, de trafic de leur téléphone, etc. Tel que si c'était vous ou moi qui le fassions, nous aurions droit à la prison. Sans parler du secret d'État. On a beau dire la démocratie consiste à contrôler le pouvoir, nous attendons la clarté des responsabilités, et on va vous dire, ce qui est d'ailleurs, je dirais presque à la limite évident, qu'un État ne peut pas vous dire tout ce qu'il fait, ni tout ce qu'il prépare. Par exemple, les otages. On dit non, non, il n'y a pas de... on négocie pas. Entendu qu'on négocie. On ne veut pas le dire. De même, toutes les luttes contre le terrorisme, on ne va pas vous dire noir sur blanc dans les journaux les moyens qu'on a pour dépister les islamistes dans les banlieues. Parce que si on le dit, ben c'est foutu. Donc le ministre de l'Intérieur, tout en vous disant « mais tout est calme, tout va bien, ne vous inquiétez pas », il utilise des moyens qui nous échappent et qui ne peut pas dire, même à la limite, le secret d'État. Alors c'est vrai dans les relations internationales, le trafic d'armes, les ventes d'armes, nous vendons très certainement des armes à la Syrie. Mais on ne peut pas le dire un peu plus. Vous ne voyez pas M. Fabius dire « oui, on a pas tant... bon, pas possible, je dirais à la limite ». Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la raison d'État va justifier les secrets d'État pour cette raison, c'est qu'il est dans des circonstances exceptionnelles. Je pense au terrorisme, on pourrait dire que bon, un État se croit en droit d'avoir des écoutes téléphoniques à Washington ou à Moscou, comme Moscou et Washington en ont à Paris, pour savoir les décisions politiques qu'on va prendre en matière financière. Il est autrement probable que les espions viennent espionner l'industrie aéronautique pour savoir comment l'Union soviétique, pas l'Union soviétique, la Russie ou la Chine, qui est experte, semble-t-il, en ce domaine, peut prendre les devants dans la construction des avions. Alors, ce qu'on va dire, c'est la deuxième conséquence, c'est que la raison d'État ne relève pas de la raison commune. On pourrait par idée Pascal, l'État a ses raisons que la raison ne connaît pas. Des raisons qu'il n'a pas à vous donner au nom de la service public. Il va, on sait très bien que certains régimes n'ont pas peur d'envoyer des espions, mais encore une fois aussi éventuellement d'éliminer un certain nombre de gens. J'invite à un cocktail. Voilà. Donc, l'État obéit à une raison supérieure, dit-on, à laquelle seul le prince a accès, le président de la République ou le ministre de l'Intérieur, et que ne peut atteindre le commun des mortels, qui ne comprendra pas pourquoi. Justification donc du secret d'État, de non-divulgation des affaires publiques, de la diplomatie secrète, de l'espionnage, du contre-espionnage, etc. Mais évidemment, cela pose une scission qui est tout à fait redoutable entre l'idée de raison commune et de raison supérieure qui ne serait pas réglée ou contrôlée par la première. Qu'est-ce que c'est que cette raison supérieure qui n'obéit pas à la raison? Mais pour les théoriciens de la raison d'État n'a pas de compte à rendre à la raison commune, donc à la raison morale. L'État est en droit de faire un certain nombre d'actions qui ne sont pas permises par la morale ou par l'éthique. Et on pourrait dire qu'il est même de sa nature de choquer la morale commune, au moins exceptionnellement. La politique de l'État et ses représentants se trouveraient donc ainsi au-dessus de la morale commune. Et effectivement, la raison d'État va expliquer que c'est pour le bien des citoyens qu'on prend les devants pour éviter, par exemple, une attaque nucléaire, une attaque de terroristes, et ainsi de suite. C'est une thèse qui est souvent défendue. Moi, je me suis trouvé jadis avec M. Le Porce, je ne sais pas si vous dites quelque chose, qui est un ministre communiste. Eh bien, nous avons eu un débat, lui et moi, à Chantilly, à l'époque où ils étaient en Chantilly. Il a défendu mordicus et d'avoir publié l'idée de secret d'État. Un bon communiste. Le secret d'État. Bon, parce que, voilà, l'État lui-même, les responsabilités que ni vous ni moi n'avons, et il doit protéger les citoyens. Alors, ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi. Mais enfin, voilà, on peut faire des choses que la morale commune réprouve. Alors ça, c'est un véritable problème, en effet, c'est-à-dire la raison d'État a des raisons éthiques, parce qu'on va toujours enrober ça de la sécurité publique, de la prospérité de la nation au niveau commercial. On va suspecter, on va espionner l'industrie voisine, l'industrie adverse, pour pouvoir prendre les devants et faire un produit mieux adapté, etc. Donc on va vous dire, mais voyez, au fond, vous vous y retrouvez vous-même. C'est un véritable problème. Et par certains côtés, c'est un problème dont on ne voit pas comment on pourra tout à fait se passer, parce que je comprends très bien que le ministre de l'Intérieur n'avait pas expliqué aux journalistes comment il poursuit les bandes de djihadistes dans les banlieues. Et ou comment il met des micros dans les mosquées pour surveiller les... Heureusement, il ne le fait peut-être pas assez, les prédications du vendredi. Parce que s'il le divulgue, c'est foutu. Alors voilà, un véritable problème. Ça relève aussi à nouveau, pour éviter les débordements, de la responsabilité morale des responsables eux-mêmes. Si on a évidemment affaire à des ministres de l'Intérieur ou à un personnel politique pourri, il va abuser de cette possibilité de la raison d'État. C'est à lui d'avoir un discernement tel qu'il évitera les débordements. Mais comment évitera-t-il les débordements de ses propres services? Parce que c'est là encore qu'il faudrait bien s'interroger. Il y a une autonomie relative des services secrets, n'est-ce pas? Bon, une fois qu'ils sont sur le terrain, on peut toujours leur taper sur les doigts, changer le directeur du service secret. Très difficile. Donc je crois qu'il faut éviter ici une espèce d'idéalisme moral. Alors, je dirais ça, c'est une première version, assez grave quand même, de la non-moralisation de l'État. L'État se donne des droits ou une éthique qui n'est pas celle du citoyen commun. Alors, il y a une autre dérive possible. Je ne vais pas insister beaucoup là-dessus, mais je voudrais quand même la signaler. C'est de considérer la politique comme une science. On a déjà vu ça un peu chez Hobbes, il y a toujours cette nostalgie de fonder enfin rationnellement la vie politique comme on a fondé la mécanique, la physique, la biologie, etc., pour éviter les erreurs, les dérapages, les échecs, les révolutions, politique comme science. Alors, qui est des sciences politiques qui observent les faits, qui les analysent, ça c'est tout à fait sain et utile et nécessaire. Je parle ici de l'idée d'une substitution, au fond, de la science par la responsabilité politique. C'est une idée qui est entretenue par un certain nombre de gens. J'ai fait allusion tout à l'heure à Saint-Simon. Le saint-simonisme, c'est quand même ça. Mais aussi par Auguste Comte, un auteur bien oublié. Mais l'idée d'Auguste Comte, c'est qu'on va parvenir à une connaissance telle de la société, de la sociologie, que au fond, on n'aura plus affaire qu'à des régulateurs de la société. Je dirais un peu comme le médecin, vous allez voir le médecin, il vous dit, cher ami, vous avez mal au foie, voilà ce qu'il faut faire, ben vous le faites. Eh bien, de même, pourra-t-on parvenir un beau jour à une science telle de la société que nous aurons des experts qui nous diront ce qu'il faut faire. Et ils ne tâtonneront pas, comme nos hommes politiques actuels, qui ne savent pas très bien à quel sein se vouer. Alors, je crois que cette perspective, elle alimente beaucoup d'approches positivistes de la politique. J'ai cité Auguste Comte, pour citer un autre auteur fort méconnu, qui est aujourd'hui, peut-être heureusement, qui est Charles Maurras. C'est l'idée qu'il y a une autonomie du politique, une politique s'autorégule, et qu'il n'a pas besoin d'intervention extérieure, soit religieuse, bien entendu, soit même morale. C'est un champ du réel qui est à considérer en tant que tel. Et il y a beaucoup de perspectives dans ce sens-là. Hein, il y a une autonomie du politique, c'est un champ spécial qui a ses règles. On pourrait dire la même chose en économie. Hein. Il y a les règles de l'économie, il ne faut pas y toucher, elles sont intangibles. Si vous essayez d'intervenir, vous les détraquez. Donc, on devrait dire en politique, c'est un peu la même chose. Il y a des règles du politique, il y a des paramètres constitutifs de la réalité politique. Et si vous les oubliez, si vous les méconnaissez, ils se retourneront contre vous. Donc, méfiance à l'égard du moralisme, méfiance même à l'égard de l'interventionnisme, il faut écouter ce que disent les experts, avoir un regard libre de valeur, wertfrei, comme dit Max Weber, wertfrei, libre de valeur pour regarder ce qu'il en est. Et donc on pourrait dire que par certains côtés, un certain nombre de sciences politiques aujourd'hui se prennent un peu pour ça. N'est-ce pas? On voit bien un certain nombre de tentations, je dirais surtout aux États-Unis, mais pas seulement là, au fond de dire, plutôt que de voter, est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur les sondages? Parce qu'à travers les sondages, on arrive à savoir avec beaucoup de finesse ce que les gens attendent et veulent. Donc, on pourrait substituer finalement les sondages au scrutin démocratique. Alors, sans aller jusque-là, je dirais que la mode des sondages est quand même quelque chose d'assez pervers. Parce qu'on fait croire à l'opinion publique et aux responsables politiques qu'ils savent ce qu'il en est de l'état de l'opinion. Or, dans ce domaine, il n'y a pas de lecture verte, frei, libre de valeur. Alors ça fait beaucoup de peine quand on le dit aux sociologues des sondages, mais leurs sondages sont toujours alimentés par un certain regard. D'abord, il y a un échantillon de personnes. On fait un sondage à un certain moment. On pose un certain nombre de questions d'une certaine façon. Si on vous demande, est-ce que vous êtes contre l'homophobie ? Oh ben vous dites oui, je suis contre l'homophobie, c'est très vilain. Bon, et est-ce que vous êtes content lorsque votre fille vous déclare qu'elle est lesbienne? Ah ben non, pas très content. Ah bon? Et alors, selon que vous posez l'une ou l'autre question, on va dire l'opinion publique, aucun problème sur le mariage pour tous, bien sûr, oh oui, votre fils va se marier avec son copain, vous allez aller aux noces, vous allez faire un banquet à tout casser. Ah non, non, ah bon, alors vous n'êtes pas pour le mariage homo. Ah, en général, oui, mais pour moi, non. Ah, voilà, donc, et on pourrait multiplier les exemples. En religion, on me dit, vous croyez en Dieu? Oh, de temps en temps, je ne sais pas bien. Ah bon, vous êtes, tac, athée. Alors on dit, vous voyez, le taux de religion est faible. Plus personne ne croit à rien. Bon, je plaisante, parce que c'est presque l'heure, mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que, contrairement à ce que nous disent les sondeurs, qui occupent les télévisions, il suffit d'ouvrir son poste, vous expliquez tous les jours où sont les gens, ce qu'ils pensent de ceci, de l'Europe, du Mali, etc. Mais regardez les questions de près, vous apercevez qu'elles sont quand même par beaucoup de côtés, je ne dis pas truquées, mais qu'elles impliquent par beaucoup de côtés la réponse. Donc, je ne dis pas du tout que le sondage ne serve à rien, mais il y a tout de même un petit risque de croire qu'il nous donne une lecture wertfrei du réel. Et il ne donne pas une lecture wertfrei du réel. Il donne un certain regard. Bon, alors ça, je dirais, c'est évidemment une première attitude que j'ai appelée d'exclusion. Il n'y a pas besoin, en effet, de morale, ni dans le cas de la raison d'État, puisque l'État est au-dessus de la morale commune, et on pourrait dire, dans le cas de ces tentatives scientistes positivistes, il n'y a pas non plus besoin de s'interroger sur le bien fondé, finalement, de ce qui est fait. Alors, je voudrais simplement esquisser ici la deuxième attitude. Donc, la première attitude, c'est au fond la morale. La morale n'a rien à voir avec la politique, parce que l'État a ses raisons à lui de prendre un certain nombre de décisions qui ne regardent pas le citoyen, qui échappent à la morale commune. Disons que c'est une morale propre à l'État, mais qui relève d'une autre raison. Ou bien de l'autre côté, la politique, c'est une science, voilà, c'est... Elle est libre de valeur et par conséquent, elle n'a rien à voir avec la morale. Alors, il y a l'attitude inverse que je vais simplement invoquer ici, qui est l'attitude de la substitution, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, la morale, à la limite, peut tenir lieu de politique. Qu'il suffirait que les responsables politiques soient vertueux, soient bons, soient honnêtes, soit en tout point conforme à la morale ou en termes chrétiens à l'évangile, pour faire de bons princes. Un prince qui serait bon, c'est-à-dire moralement bon, religieusement bon, évangéliquement bon, serait forcément un bon prince. Alors ici, les références sont nombreuses au miroir des princes du Moyen-Âge, qui se calquant toujours un peu plus ou moins sur l'exemple de Saint-Louis, tenait à l'idée que, au fond, ce qu'on attend du prince, c'est qu'il soit conforme à l'évangile, conforme à la morale, et que la bonne décision politique découlera de cette perspective. Bon, évidemment, c'est contre quoi Machiavel s'insurge avec force. Mais on pourrait dire, et je vais terminer par là, je reviendrai la prochaine fois, qu'il ne s'agit pas simplement de mettre en cause cette idée que le prince bon serait un bon prince. Il faut voir aussi que ressurgissent aujourd'hui de telles idées, notamment aux États-Unis, un certain nombre de théologiens. Caractère, c'est-à-dire il faudrait avoir des responsables, en tout domaine d'ailleurs, pas seulement en politique, mais en économie, des gens de caractère, c'est-à-dire des gens, pas seulement des gens de caractère au sens un peu rigoureux du terme, qui mettent le poing sur la table, mais des gens de vertu, contre le relativisme, des gens équipés moralement, qui soient capables de résister aux sirènes du succès, de griseries de l'argent, etc. Donc, retour au fond d'un certain moralisme, on ne peut pas être, on ne peut pas faire de mauvaises actions si l'on a un caractère trempé, vivant de la morale, vivant de l'évangile. Bon, on trouve ça évidemment aussi beaucoup chez certains fondamentalistes protestants, avec l'idée que si on agit, ça c'est très américain aussi, au nom de l'évangile, au nom de, ben, on ne peut faire que du bien. On ne peut pas faire du mal si on agit au nom de l'évangile. Donc si on se bat pour la démocratie, si on se bat pour la dignité de l'homme, on peut, voilà, au nom de ça, on peut se permettre, et on doit même renverser des dictateurs. Évidemment, Saddam Hussein, etc., qui est pas... Oui, donc on justifie par la force d'âme de M. Bush l'idée que, puisqu'on est convaincu du bien, ben, la politique qui en découle ne peut être que bonne. Et qu'on aboutira au triomphe, finalement, de la démocratie et du bien, même en utilisant des moyens qui sont apparemment réprouvés, mais qui ouvrent la voie, effectivement, à la démocratie, au respect de l'homme, etc. Bon, je reviendrai sur ce point la prochaine fois. Donc, nous nous retrouvons le 4 avril.